La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Ce sont deux figures d'ancêtres, l'une familière à celles et ceux qui lisent des sciences sociales, une figure d'arrière-arrière-grand-père pour celles et ceux qui pratiquent aujourd'hui la sociologie. C'est la figure célèbre d'Émile Durkheim, à laquelle s'attache avec lucidité et sévérité l'anthropologue Viktor Stokowski dans un essai aussi original que déstabilisant, la science sociale comme vision du monde. La seconde figure, contemporaine de la première, il y a bien peu de chances que vous la connaissiez. C'est aussi une figure d'arrière-arrière-grand-père. Jules Poisson est l'arrière-arrière-grand-père de la romancière Christine Montalbetti. Et elle s'y attache tendrement et magnifiquement dans un livre en forme d'enquête qui fourmille de petits romans, Mon ancêtre Poisson. On ne sait si durant ces années d'extraordinaires inventions et de grandes curiosités scientifiques, mais aussi de neurasthénie et de massacres, ces deux hommes se sont croisés. On peut l'imaginer au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle, où travaillait le botaniste Poisson, mais aussi le neveu adoré de Durkheim, autre grande figure ancestrale, l'anthropologue Marcel Mauss. Une chose est sûre, ils se croiseront aujourd'hui dans cette émission. Viktor Stokowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous publiez aux éditions Gallimard, dans la collection Essai, dirigée par Eric Ving, La science sociale comme vision du monde, sous-titré Émile Durkheim et le mirage du salut. Alors, c'est rare que je le fasse, mais je voudrais lire la première phrase. Je propose dans ce livre de porter sur les sciences sociales un regard inaccoutumé. Oui, inaccoutumé, c'est bien le moins qu'on puisse dire de ce livre que je qualifie à l'instant de déstabilisant, pour qui à la fois se pense profondément rationaliste et en même temps, d'une certaine façon, croit dans les sciences sociales. C'est un livre qui remet en question un certain nombre de choses, qui prend la forme d'une enquête autour de la figure d'Émile Durkheim, mais dont les objectifs dépassent cette figure d'Émile Durkheim. D'ailleurs, vous aviez consacré un livre précédent à Claude Lévi-Strauss. Et puis, après Lévi-Strauss, dans cette grande filiation, dans ces grandes généalogies des sciences sociales, vous vous êtes aussi intéressé à Pierre Bourdieu et à Bruno Latour, Viktor Stokowski.
Vous venez de dire que c'est un livre déstabilisant. Il l'était d'abord pour moi. En tout cas, l'enquête dont ce livre résulte a été un peu déstabilisante pour moi parce que je suis allé de surprise en surprise. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour l'œuvre d'Émile Durkheim. Je l'ai donné comme exemple à mes étudiants, à cause de la limpidité de sa prose, de la rigueur de ses raisonnements. Et lorsque je me suis plongé dans cette enquête, j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'Émile Durkheim manipulait systématiquement ses données, se livrait à des paralogismes, déformait les informations qu'il puisait dans la littérature de l'époque, et je ne m'attendais pas du tout à cela. Et j'étais surtout frappé par le fait que cette démarche très étrange obéissait néanmoins à des règles très strictes. Et dans ce travail, j'ai essayé de reconstituer la véritable méthode d'Émile Durkheim, très éloignée de règles et déclarative de la méthode sociologique telle qu'il les a formulées dans un de ses livres.
Alors, c'est pas seulement un livre de réfutation terme à terme du travail d'Émile Durkheim. L'ambition de cet essai est beaucoup plus grande. Elle peut peut-être se résumer à cette question que vous posez très vite. Est-ce que les chercheurs deviennent parfois crédules en dépit de leur science ou plutôt à cause de leur science?
Cet ouvrage n'est pas un ouvrage critique. Je procédais plutôt comme les anthropologues ont l'habitude de le faire. Lorsque l'anthropologue étudie la pensée des gens dans une société différente de la sienne, et il ne les critique pas, il cherche pas à les critiquer, il cherche à les comprendre, à saisir les règles et qui gouvernent cette pensée différente de la sienne. C'était ça l'ambition et principale et de mon travail. Et si je constate un écart assez fréquent, je dirais quand même, entre les faits et les conjectures explicatives, ce n'est pas pour critiquer ces conjectures, c'est pour retrouver les véritables fondations de ces hypothèses. Et ces fondations résident ailleurs que dans la réalité empirique.
Alors, Durkheim, c'est une figure importante des sciences sociales, à un moment important, c'est-à-dire qu'il est souvent considéré comme un père fondateur, côté peut-être de Karl Marx, certainement de Max Weber. Mais en fait, vous insistez beaucoup sur le fait que Durkheim ou les autres fondateurs ne sortent pas de nulle part. Ils sont produits par une société, par une formation, par des idées qui leur préexistent et d'ailleurs qu'on retrouve très facilement et très simplement dans leur production. Pourtant, peut-être à cause d'ailleurs du livre qui est encore, à bien des égards, un manuel de sociologie, les règles de la méthode sociologique, on insiste beaucoup en sciences sociales sur la nécessité de rompre avec tout ce qui s'est fait avant, et il y a cette idée d'une science qui, à chaque fois, doit faire table rase, au fond, tout en étant cumulative, mais c'est un autre débat. Et vous, au fond, c'est ça déjà que vous commencez par récuser, en montrant à quel point Durkheim et son œuvre est l'héritière de tout ce qui lui précède, et notamment, d'une part, de la tradition philosophique, et d'autre part, de la tradition chrétienne.
Oui, Émile Durkheim me sert à démontrer une thèse beaucoup plus générale et qui s'applique à l'ensemble des sciences sociales. Émile Durkheim appartient à une époque où les méthodes, les questions, les démarches des sciences sociales ont été élaboré et défini. Cette élaboration avait un caractère collectif et Durkheim était l'un de ceux qui ont mis en place ces dispositifs que nous continuons à employer encore et aujourd'hui. Et c'est aussi le moment où les sciences sociales ont inventé leur récit d'origine. Et l'une des idées fondamentales de ces récits est effectivement une coupure et méthodologique et historique profonde par rapport aux traditions préalables, surtout par rapport à la philosophie, à la théologie. Et dans ce livre, j'essaye de montrer que les sciences sociales naissantes ont repris plusieurs idées importantes d'un côté de la théologie chrétienne et de l'autre de la tradition et philosophique. De la tradition philosophique, elles ont hérité le modèle du grand système explicatif qui interprète tout au moyen d'un nombre très limité de concepts assez rudimentaires. Et de l'autre, la technique de la dialectique dissertative qui est à la fois un puissant outil rhétorique et un instrument de la pensée, de la réflexion, toujours et transmis par l'enseignement scolaire en France, universitaire, et toujours employé par les chercheurs en sciences sociales. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est l'héritage chrétien des sciences sociales, cet héritage qui est très souvent occulté, voire nié. Car en effet, les sciences sociales ont repris de la tradition chrétienne deux idées importantes. D'un côté, la conviction que le monde humain est affecté par un mal et profond qui altère l'ordre légitime des choses, et de l'autre côté, l'espoir que ce mal pourrait être un jour abrogé grâce aux ressources de la raison et de la science.
Alors il y a peut-être un lien entre les deux idées que vous venez de dénoncer, d'un côté l'héritage philosophique, de l'autre l'héritage de la théologie chrétienne, qui passerait au fond par le fait que la théorie, ou plutôt la philosophie des sciences, d'une certaine façon, qui s'appuie sur la médecine et qui va être très importante pour Durkheim, enclenche un certain type de rapport au savoir dans lequel la notion de pathologique est centrale d'une part et d'autre part aussi l'idée qu'on puisse trouver des remèdes à ces pathologies. Et au fond, ce qui est frappant en vous lisant, c'est qu'on voit Durkheim s'appuyer sur la médecine expérimentale, sur Claude Bernard, bien plus que sur d'autres modèles scientifiques qui auraient pu, du côté de la physique par exemple, être intéressants, et dans lesquels la notion de pathologie n'avait rigoureusement aucune place ou aucun sens même, Victor Stokowski.
Oui, vous avez parfaitement raison de le souligner. Et il y a d'un côté une pléthore des références à des notions classiquement chrétiennes, comme le salut par exemple, la chute, les péchés, la faute originelle, et de l'autre, des références tout aussi nombreuses à la médecine et surtout à la pathologie. Durkheim, mais c'était une idée largement répandue à l'époque, et considérait que la société était profondément malade, livrée à des pathologies, et des pathologies auxquelles on pouvait remédier, et par une thérapeutique appropriée. Et il concevait le travail sur la compréhension de la société comme un instrument et de la cure définitive de tous les maux sociaux. Donc, sa sociologie était avant tout une sociologie curative, une science des soins et qu'on devait apporter à la société et la physiologie.
C'est d'ailleurs, récemment, on a entendu plus souvent cette fameuse phrase de Durkheim dans un cours, rien ne vaut, alors je ne la connais pas par cœur, mais une heure de peine, si en gros on ne peut pas appliquer le résultat de ses recherches à améliorer la situation de la société. Et cette phrase est citée de nouveau souvent dans le mouvement de sociologie publique, de nouvelles formes d'engagement des sciences sociales.
Oui, oui, cette phrase effectivement très souvent est citée, et elle accrédite l'idée que la connaissance n'est pas une valeur en soi, autonome, et qui mérite d'être construite pour elle-même, que c'est toujours un expédient, un moyen, et qui est intéressant uniquement dans la mesure où la connaissance permet de réparer le monde. C'est pourquoi les sciences sociales, jusqu'à aujourd'hui, s'intéressent de préférence à des phénomènes qui nous paraissent pathologiques et scandaleux, abjects. J'ai beaucoup travaillé sur le racisme depuis une vingtaine d'années, et au début de ce travail, je me suis aperçu que les travaux sur le racisme, donc un phénomène que nous percevons comme pathologique, et c'est compté par des dizaines de milliers, alors que les travaux sur l'antiracisme, qui lui se situe dans les camps du bien, se comptaient sur les doigts d'une seule main. Comme si uniquement ce qui était réprouvé et pathologique méritait une réflexion, une étude, et tout ce que nous approuvons et pouvait rester en dehors de la réflexion académique.
Alors, peut-être ça surprendra certains, mais très vite dans votre livre aussi, vous faites un parallèle ou un écho, même si vous ne vous attardez pas, entre de ce côté-ci de l'Atlantique, Durkheim, et de l'autre, le courant pragmatiste, à travers la figure de James, en particulier Day James, père et fils, pour souligner ce qu'il peut y avoir de commun, au-delà de toutes les différences, dans le fait de partager cette vision du monde héritée de la théologie chrétienne, c'est-à-dire cette idée du mal dont vous parliez tout à l'heure, qu'il s'agirait de guérir. Et vous remontez à ce moment de crise du père Henry James, le père de l'autre Henry James, son fils le romancier, mais aussi le père de William James, fondateur de la psychologie sociale, pour raconter cette crise au fond très personnelle à travers laquelle il passe et qu'il résout à travers enfin une théologie qu'on retrouvera dans les œuvres de William James, Victor Stokowski.
Oui, donc le père de William et Henry a rencontré le mal. Ça s'est passé dans un cadre assez idyllique, en Windsor, et c'était après un dîner dans la salle à manger. Il a senti la présence du mal. Il en était ravagé, il était malade, détruit psychologiquement pendant 2 années, jusqu'au moment où Une amie lui a expliqué que son état était un symptôme assez classique de la vastation et décrite par et un grand mystique et visionnaire du XVIIIe siècle, Emanuel Swedenborg, qui considérait que cette crise terrible était une phase de transition vers l'union avec la divinité, l'énergie divine. Et le fiston de Henry, donc Henry Senior a été guéri de ce mal qui l'est ravagé. Et le fils de Henry, William, donc philosophe et psychologue, a utilisé cette expérience pour forger sa théorie de l'expérience religieuse. Et sa théorie de l'expérience religieuse et présente des analogies assez frappantes avec la façon dont Émile Durkheim a imaginé les rituels, l'effervescence des rituels religieux. Et William James et Émile Durkheim étaient des grands adversaires. En 1913, Durkheim a consacré son cours à la Sorbonne pour détruire le pragmatisme jamesien et sa vision de la religion, pourtant si similaire à la sienne.
Ça aura des conséquences à très long terme dans l'histoire des sciences sociales françaises.
Voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui détestent Durkheim se revendiquent des William James et vice-versa. Donc, on est en présence de deux plaques tectoniques et qui se rencontrent, qui se frottent l'une contre l'autre, qui semblent inconciliables, et pourtant, ces deux plaques tectoniques de la pensée occidentale sont construites à partir de la même matrice, qui est celle du schème de la neurasthénie, une maladie imaginaire inventée au 19e siècle et qui a connu son âge d'or jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que William James et Émile Durkheim, c'était deux grands neurasthéniques devant l'éternel, et qui ont utilisé cette maladie, son schème conceptuel, pour forger d'un côté une vision de la psychologie humaine et de l'expérience religieuse, et de l'autre, une vision de la société. Société qui devient, chez Durkheim, un malade neurasthénique. C'est une société neurasthénique décrite par un neurasthénique.
D'un côté comme de l'autre, un projet que vous qualifiez de sotériologique. De quoi s'agit-il ?
Sotériologique, donc, on utilise ces termes pour qualifier les théories du salut. Ces théories du salut sont propres aux religions de salut, donc le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc. Mais ces sotériologies ont été soumises au XIXe siècle, à partir du XVIIIe siècle, mais surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à une laïcisation. Et l'ambition des sciences sociales naissantes à cette époque était assez explicite. C'est de créer un substitut de la religion chrétienne dans ses deux fonctions principales. D'un côté, une explication globale de la chose humaine, et de l'autre, une théorie de salut destinée à réparer le mot qui affectait, selon ces chercheurs, le monde humain. Donc on voit l'émergence à partir du 18e, mais surtout au 19e siècle, des théories laïques de salut et qui prennent des formes exacerbées, bien sûr, dans les doctrines des grands systèmes totalitaires du 20e siècle.
Pour qualifier ces grands systèmes non pas totalitaire cette fois, mais ces grands systèmes théoriques que sont ces œuvres, par exemple celle d'Émile Durkheim, vous utilisez le mot de cosmologie.
Oui, cosmologie, c'est un terme un peu technique du jargon anthropologique, et très souvent est confondu par nos lecteurs, par notre public, avec la science de l'univers. La plupart des équipes qui portent ce mot dans leur titre, et ce sont des équipes d'astrophysique. Et donc, je l'utilise parfois ces termes, mais je lui préfère la notion des visions du monde, qui est peut-être un peu plus naïve, mais plus compréhensible. Et donc, il s'agit de représentations globales du du réel et qui précise, définisse la place de l'humanité dans le cadre du grand système et de l'univers, du cosmos au sens philosophique du terme, au sens qui a été défini initialement par Immanuel Kant.
C'est ça qui vous permet d'explorer l'œuvre de Durkheim en vous intéressant à trois dimensions qui sont constitutives pour vous de ces cosmologies. Une dimension qui a trait aux valeurs, une dimension axiologique, une dimension qui a trait à l'ontologie et une dernière enfin qui parle des origines, qui fait l'histoire au fond de cette théorie. Et c'est ça que vous appliquez à l'œuvre de Durkheim. Mais à la fin de votre livre, vous esquissez le même type de travail pour les descendants d'Émile Durkheim à l'intérieur des sciences sociales. Alors, s'agissant de Claude Lévi-Strauss, vous avez déjà écrit un livre pour vous intéresser à sa cosmologie, mais vous poussez à deux autres noms qui sont des gens aussi connus, aussi cités aujourd'hui et qui occupent des places essentielles dans les références des sciences sociales, derrière Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, puis Bruno Latour.
Oui, je me livre à une analyse très rapide à la fin du livre, une analyse rapide, peut-être même cavalière, à cause de sa concision, et je montre que ce schème interprétatif que j'avais élaboré en travaillant d'abord sur Lévi-Strauss, ensuite sur Durkheim, s'applique également à d'autres auteurs, et en l'occurrence Pierre Bourdieu et Bruno Latour, donc au total quatre grands théoriciens éminents des sciences sociales, dont chacun a proposé une théorie générale de la chose humaine et en même temps une vision du monde qui apparaît en filigrane dans l'œuvre savante. Mais auparavant, j'ai appliqué le même schème d'explication aussi à des savoirs naturalistes, à des conceptions pseudo-scientifiques et aussi, à l'occasion des élections présidentielles de 2007, aux programmes électoraux des candidats à la magistrature suprême. Et effectivement, et par exemple dans les programmes politiques aussi, on trouve cet intérêt exacerbé pour les mots qui sont censés affecter notre société et pour un programme de la réfection totale du monde humain.
Alors on trouve ça en commun, mais on trouve dans ces cas français peut-être une spécificité française forte et même une spécificité normalienne, puisque un chapitre y est consacré, des fulminations antiphilosophiques, pour vous citer, et je vous cite encore, « Tout se passe comme si les grands théoriciens des sciences sociales portaient un jugement sur la philosophie en recourant à une approche qu'ils attribuent non pas aux sciences sociales, mais à la philosophie, et dont ils déplorent sans cesse l'indigence. » Et là, vous parlez de rituel philosophique, de la distinction appliquée à lui-même, en quelque sorte, en forme de boucle. Et ça, c'est une chose que partage, et vous le montrez, même si c'est bref, brillamment, aussi bien Émile Durkheim que Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu et Bruno Latour.
Oui, j'appelle ça aussi la déformation et normalienne qui vient de la formation normalienne. Et il y avait dans l'œuvre de Durkheim des choses qui m'intriguaient, que je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'au moment où je suis allé aux Archives nationales et pour lire les copies du concours d'agrégation d'Émile et de ses petits camarades. Et là, c'est fut une illumination. La méthode de Durkheim est là dans la dissertation des philosophies. Donc j'essayais de comprendre comment cette dialectique dissertative s'est mise en place, quelles étaient ses origines philosophiques, quelle était sa transmission scolaire et quelles sont ses applications dans les travaux des sciences sociales, parce que les plus grands théoriciens des sciences sociales en France sont passés par la formation philosophique, donc ils ont acquis cette habitus dissertatif et dont ils disent qu'il appartient au passé uniquement. Ils affirment qu'ils sont complètement détachés de cette matrice alors qu'ils n'ont de cesse de l'employer dans leurs travaux savants, mais sous des formes beaucoup plus sophistiquées que dans les classes terminales ou au concours d'agrégation.
Alors, on passe de l'ancêtre Durkheim dans la deuxième partie de l'émission à l'ancêtre Poisson. Les deux sont contemporains. L'ancêtre Poisson de Christine Montalbetti qui nous rejoint. Mais avant ça, c'est l'ancêtre Iguane qu'on écoute, un extrait du nouvel album d'Iggy Pop.
James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Des figures ancestrales aujourd'hui à la suite dans les idées, après Émile Durkheim, Poisson, Jules Poisson, c'était son nom, c'était votre arrière-arrière-grand-père, donc évidemment, par définition, en quelque sorte, vous ne l'avez pas connu, Christine Montalbetti, c'est ce fait-là, probablement, qui est à l'origine de l'enquête que vous avez décidé de mener, parce que était associé à ce nom dans votre famille des histoires, des anecdotes dont on ne savait pas très bien si elles relevaient de la légende ou de la vérité. Alors vous avez décidé d'en savoir plus, vous avez mené une enquête qui a dû durer un certain temps d'ailleurs, parce que vous nous embarquez, lecteurs, à vos côtés dans cette enquête, haletante, avec du suspense dans ce livre aussi.
Oui, vous avez raison de dire que c'est parce que je ne l'ai pas connu en un sens que j'écris sur lui et que j'essaye de profiter de ce que le récit peut devenir ce lieu fantastique d'une rencontre qui ne peut pas avoir lieu dans la réalité. Alors effectivement, au début, je possède très peu d'informations. Ces deux anecdotes dont vous parlez, dont l'une est lumineuse et dont l'autre, rétrospectivement, me paraît terrible et que j'hésite à dire et que je mets tout le livre à dire. Il y a aussi une sorte de maillon entre nous qui est ma grand-mère, dont c'était le grand-père. Et donc, cette chose-là troublante pour moi, qui est que, et lui et moi, nous avons posé les yeux sur elle, lui qui est né en 1833 et moi qui suis née quand même beaucoup plus tard. Et puis je dispose d'une photo parce que j'ai commencé à aller un petit peu du côté du jardin des plantes, voir s'il y avait des documents. Et à l'époque, le bibliothécaire que j'avais rencontré m'avait dit qu'il y avait des lettres, mais qui n'étaient pas encore classées, qui l'ont été depuis et auxquelles j'ai eu accès. Et il m'avait envoyé par mail une photo de Jules Poisson. On n'avait pas de photo dans la famille de lui. Il est assez âgé sur cette photo. Il a déjà 80 ans, je pense. Et on a le sentiment aussi dans ces photos-là anciennes qu'on joue toute sa vie dans l'instant de la photo et que c'est ça qu'on lit aussi, cette biographie que le contre-champ du regard laisse imaginer, cette espèce de hors-champ des regards de ces photos-là qui sont très intenses. Et en même temps, j'aperçois une douleur sur ce visage et voilà, je pars aussi en quête de ça, de la résolution de ce chagrin que je sens qu'il porte en lui.
Jardin des plantes parce que il y était depuis son tout jeune âge, enfant, pour y devenir d'abord jardinier, puis pour y devenir botaniste, et botaniste jusqu'à la fin de sa vie longue, puisqu'il naît un peu avant Émile Durkheim et il meurt juste après.
Deux ans après.
Lui, lui aura vu la fin de cette Première Guerre mondiale, alors que Durkheim meurt pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont deux ancêtres contemporains d'une époque qui vous intéresse aussi, Christine Montalbetti, et vous y faites référence, non pas à travers les figures de James, par exemple, mais à travers celle d'Edison, ou à travers ces technologies, ces moments à partir desquels on va pouvoir commencer à enregistrer les voix. On sait que tout ça naît avec la guerre civile aux États-Unis, l'idée de garder des traces des morts, les premiers massacres avant cette Première Guerre mondiale, d'ailleurs en Europe. Mais voilà, c'est une époque de naissance de nouvelles sciences, et la démarche scientifique est au cœur de la vie de Jules Poisson aussi.
Oui, oui. Et effectivement, j'essaye de rendre compte aussi de l'étonnement que ça a été, ces découvertes, les découvertes d'Edison dont vous parlez, comment garder des traces des voix, et c'est explicitement présenté comme ça dans les articles, garder des traces de ceux qui vont mourir, et aussi l'apparition du cinéma, et ce que ça fait, cette vision des corps mobiles en noir et blanc, mais qui bougent à vitesse réelle, et voilà, j'essaye de retrouver aussi la sorte d'enchantement que ça a dû être.
Et le passage de la bougie à l'électricité.
Aussi, oui, oui, effectivement. Cette traversée comme ça de tous les changements matériels aussi du monde autour de lui et des habitudes même domestiques, de ce que ça change aussi à l'intérieur de la maison.
Victor Stokowski, ce sont des changements absolument fondamentaux, anthropologiquement parlant, qui se produisent du fait de ces progrès techniques en peu d'années, et finalement qui sont assez peu présents dans l'œuvre d'un sociologue dont on aurait pu penser, Émile Durkheim, qu'il aurait davantage chroniqué cette actualité, comme peut-être tentent de le faire aujourd'hui les sociologues contemporains avec la mutation numérique.
Ouais, parce qu'il pensait que les choses allaient mal, hein, donc il était très mal placé pour apprécier tout ce que le progrès de son époque lui offrait. Et Water Closet, c'était quand même à ces moments-là qu'on l'a inventé. Quel bouleversement dans nos existences. Mais il l'a pas apprécié. Il considérait que la société était en proie à l'anomie, qu'il y avait toutes sortes de malheurs qui nous arrivaient, que la morale s'effondrait. Donc, c'est un discours que nous qualifions aujourd'hui déclinologique, un tout petit peu. Mais avec un espoir qu'on pourrait arranger tout ça, et vite fait.
Et moi, j'imagine à l'inverse que le regard que Jules Poisson portait sur le monde, d'abord comme jardinier, donc très jeune, il avait moins de 10 ans quand il est entré au Jardin des Plantes, à cette époque où les enfants travaillaient, mais plus tard comme botaniste, j'imagine qu'il y a au contraire quelque chose de très joyeux dans son rapport à la science. Alors aussi parce que c'est un autodidacte.
C'est ce qui ressort de la lecture de votre livre. Oui, on a l'impression d'un grand optimisme.
Oui, c'est une figure très lumineuse. Elle est décrite comme ça par ses collègues, d'ailleurs, au moment du jubilé, par exemple. Donc j'imagine que le rapport à la science n'est pas, au fond aussi, peut-être à cause de sa discipline, et un rapport plus matérialiste, et du coup dégagé peut-être de la métaphysique ou de l'inquiétude du mal dont vous parlez.
Il a traversé sa vie le regard fixé sur la nature, alors que, et pour Durkheim, la nature n'avait aucun intérêt. Il ne voyait que la société, et surtout il ne voyait que le mot de cette société. Donc c'est un regard conditionné par un certain nombre de décisions arbitraires et qui avaient tout pour rendre cet homme malheureux, neurasthénique, malheureux. Et Durkheim a l'air de souffrir authentiquement. Quand on lit ses lettres, on voit un homme qui souffre, qui s'afflige, qui se lamente. J'espère que tous les sociologues ne sont pas dans ce cas-là, mais effectivement, ces contacts avec la nature, cette belle nature domestiquée et du jardin des plantes, non pas la nature sauvage, dont Buffon disait que les hideuses et mourantes, mais ces jardins, ces parcs, et c'est un lieu où on a envie de passer beaucoup de temps.
Cette même nature aussi que la guerre de 14 dévaste aussi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je décris dans le récit aussi, cette
Il faudra au fond attendre la troisième génération dans les sciences sociales si on reste dans ce jardin des plantes, c'est-à-dire non pas Marcel Mauss, mais André-Georges Audricourt, qui fut son élève, ethnobotaniste, dans ce même département où travailla Jules Poisson, et grande figure des sciences sociales et du rapprochement des sciences sociales avec la nature. Alors là, pour le coup, c'est une préoccupation contemporaine. Mais il y a un autre écho entre vos deux livres que je voulais souligner aussi, Christine Montalbetti. Vous écrivez à un moment dans votre livre que les récits familiaux qu'on se passe de génération en génération soient pleins d'erreurs, on le comprend, mais les dictionnaires et le reste, toutes ces fautes comme ça que ceux qui sont censés travailler à constituer notre savoir disent-ils sans penser à mal, non, mais parce que leur vie est faite de tellement d'autres choses, parce que leur attention dévie. Le savoir, une somme solide de faits vrais, on se dit, un socle, un trampoline à partir duquel s'élancer dans le monde léger des hypothèses, mais non, ce socle est vermoulu, déjà mêlé, un mélaminé de vrai et de faux, voilà qui prend l'eau et se distord, et jusqu'aux dates, c'est pas sorcier pourtant de copier correctement une date, d'aller la vérifier, mais non, toutes ces mains désinvoltes vous sèment de petites erreurs qui font leur vie là-dedans, bras dessous avec les choses vraies, elles se fondent dans la masse, bien déguisées, et comment les y reconnaître? Ça aussi, ça ne peut que résonner par rapport à la relecture de Durkheim, truffé d'erreurs, vermoulu, beaucoup d'aménagements avec les faits, au fond.
En tout cas, c'est vrai que c'est un trouble réel qu'on peut éprouver ça. Et en même temps, pour moi, c'était aussi l'occasion de rêver à ce que c'était qu'une vie de documentaliste et voilà, ne pas agresser l'erreur, mais voilà, la prendre aussi dans une espèce de désinvolture. Voilà, lié à une histoire qu'on ne connaît pas, celle de la main qui a mal noté la date et des histoires qui étaient reliées à cette main.
Mais en vous lisant, je m'ai posé une question, pourquoi et nous parvenons si facilement à voir la beauté lorsque nous regardons la nature et si rarement percevoir cette beauté lorsque nous regardons la société? Il y a dans la société des choses admirables est belle, pourquoi nous nous concentrons toujours sur les aspects vils et abjects de la vie sociale?
Ça, je ne sais pas, mais c'est une question à poser plutôt aux sociologues.
Parce bien que, évidemment, voilà. Je me la pose à moi-même.
Ouais.
Alors, je parlais d'enquête à propos du livre, parce que c'est vrai que vous reconnaissez dans ce mot. On a fait récemment ici une émission avec Laurent Demanze, dans laquelle il observe et il note et que beaucoup d'ouvrages contemporains de la littérature prennent cette forme désormais.
Oui, c'est une enquête. À la fois, elle répond évidemment au désir d'approcher le plus possible cet individu, Jules Poisson. Elle permet aussi de travailler sur la question de l'imagination et justement de ces petits romans qu'on se fait.
Romans, vous dites.
Voilà. Enfin, il y a les romans dont je pars, ceux qui circulaient dans la famille, cette légende familiale comme ça qu'on tisse dans les repas de famille, dans toutes les familles, et qui fait qu'il y a une espèce de petit roman commun, mais aussi que chacun dans la famille se réinvente son propre roman à partir de cette légende commune. Et puis, il y a aussi tous les romans que je vais me faire à chaque nouvelle découverte, c'est-à-dire que le mouvement de cette enquête, c'est un mouvement aussi qui va tantôt compléter, tantôt infirmer, et tantôt ouvrir une autre piste, et quand il ouvre une autre piste, alors forcément, mon imagination s'engouffre, et puis d'autres éléments vont venir à leur tour, soit confirmer, soit infirmer cette imagination. Donc c'est aussi une manière de mettre en œuvre dans le récit ça qui est aussi au cœur du mouvement du roman en général, et de l'écriture romanesque, mais aussi de nos rêveries et de notre... de la façon dont nous réinventons constamment le monde et les individus autour de nous.
Et tout ça avec une part de réflexivité importante. Vous ménagez des parenthèses pour vous et pour vos lecteurs, Christine Montalbetti, des parenthèses qui vous permettent de mettre un peu de distance, d'humour parfois.
Oui, c'est aussi une façon humoristique de revisiter ce geste-là de l'enquête généalogique, c'est-à-dire... le faire à la fois avec une certaine empathie aussi, avec d'interroger cette espèce d'affection inconsidérée qu'on ne peut éprouver pour un ancêtre qu'on n'a pas connu, créer cet espace affectif, cette relation impossible avec cet ancêtre Jules Poisson, mais aussi introduire de l'humour dans le geste et réinterroger au fond ce désir qu'on peut avoir tous d'en savoir plus des ancêtres. Et d'ailleurs, un mouvement qui est le mouvement du 19e siècle aussi, où se construit la paléontologie, et au muséum aussi, ces présences de squelettes, la galerie de paléontologie qui est créée.
Qui fut l'objet de votre premier livre ?
Oui, le deuxième roman, L'origine de l'homme, effectivement, qui parle de Jacques Boucher de Perthes et de son, ses intuitions sur l'homme préhistorique. Et j'imagine aussi que cette présence des squelettes faisait pression sur Jules Poisson dans ses promenades. Il y a la présence du zoo, les animaux vivants du zoo, et puis il y a aussi ceux qui restent des époques disparues, et au fond, ceux qui restent, ce sont des squelettes.
Voilà qui doit vous parler, Victor Stokowski, vous qui êtes anthropologue, mais avez d'abord été archéologue.
Oui, je connais très bien Jacques Boucher de Perthes. J'adore ces personnages fantasques et un touche-à-tout. Mais j'étais vraiment fasciné en lisant votre roman. Je l'ai lu aussi avec un peu de jalousie parce que vous osez faire ce qu'aucun chercheur ne se permet de faire, c'est-à-dire de raconter vraiment votre enquête et raconter des aspects subjectifs, très personnels de votre travail. Et les chercheurs qui fait une enquête avancent le nez dans les guidons et n'osent pas très souvent se regarder en train de travailler. Combien j'aurais aimé que Émile Durkheim ait écrit et un tel journal de ses enquêtes, ça nous aurait permis de comprendre comment il travaillait, comment il pensait, quels étaient les obstacles qu'il rencontrait, les dilemmes. Et les historiens des sciences s'acharnent à comprendre Galilée, Newton ou Darwin. Mais ce qui leur manque, c'est justement ces récits des enquêtes savantes. Les chercheurs n'ont pas le courage de se dévoiler à ce point. Et là, c'est bien dommage.
Merci Victor Stokowski, merci Christine Montalbetti. Je rappelle le titre de votre livre, Victor Stokowski, La science sociale comme vision du monde, il paraît aux éditions Gallimard. Et le titre de votre roman, Christine Montalbetti, Mon ancêtre poisson, il paraît chez POL. Les références bibliographiques, vous les trouvez sur la page de La Suite dans les idées où vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'est La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Julien Douminc, à la réalisation Marie Placé. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.